Voilà, alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment, au niveau de tes études, de ton travail, de tes loisirs, enfin, ce que tu fais actuellement?
Ouh, alors je fais beaucoup de choses. On va commencer par mes études, ça va prendre pas mal de temps. Je suis une étudiante à l'université. J'étudie à la faculté des lettres et des sciences humaines. J'avais choisi comme branche dans le système de licence, donc l'ancien système qui précède celui de Bologne. J'avais choisi comme première licence l'histoire de l'art, comme deuxième licence l'ethnologie ou l'anthropologie, et comme demi-licence c'est la psychologie sociale. Alors j'ai déjà obtenu ma première licence en histoire de l'art. Ensuite, j'ai aussi obtenu ma demi-licence de psychologie sociale. Et maintenant, actuellement, je suis en train de travailler sur mon mémoire en histoire de l'art. Et dès que j'aurai terminé mon mémoire, eh bien, je passerai ma licence en ethnologie. Concernant mon mémoire, je pense que vous voulez peut-être savoir plus là-dessus. Donc j'avais dit que c'était en histoire de l'art et j'ai choisi d'étudier un peintre néo-châtelois du 19e siècle appelé Albert de Meuron, qui est en fait le fils de Maximilien de Meuron, bien connu en tout cas de nom dans les contrées de Neuchâtel. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est que dans le cadre d'un séminaire en histoire de l'art, l'Institut d'histoire de l'art avait fait un accord avec le Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel concernant les plus belles œuvres du musée dans une période donnée. Et à ce moment-là, c'était des œuvres entre 1400 et 1900. Et ce projet était appelé comme publication de collection. Et nous étions toute une classe d'étudiants à travailler là-dessus en collaboration avec un professeur, une assistante, le conservateur du Musée des Beaux-Arts, plus deux collègues du conservateur. Et chaque étudiant devait faire deux, trois, voire quatre notices sur des œuvres. Là, il s'agissait de tableaux. Donc, c'est un projet qui continue actuellement. Donc, maintenant, je crois que maintenant, les étudiants s'occupent du troisième volet du projet. Toujours des tableaux, plus tard, il y aura les dessins et enfin des objets comme des sculptures, peut-être. Et au final, toutes ces notices écrites par les étudiants vont être publiées sur un catalogue en ligne et aussi sur papier. Et ce projet s'étend sur de nombreuses années, donc on ne sait pas actuellement quand ça se terminera. Quand j'ai fait ces notices, donc il s'agissait de décrire un tableau qu'on avait choisi parmi une sélection d'œuvres. Les étudiants devaient décrire à la fois le tableau, faire une analyse et apporter aussi une manière de voir l'œuvre qui soit à la fois courte et accessible autant aux profanes qu'aux experts en histoire de l'art ou dans le domaine des arts. Donc c'est facile à lire, mais c'est un texte très court, je crois que c'était 3000 caractères, les espaces compris, l'apostrophe. Hein. Et donc nous devions apporter une lumière intéressante avec une formulation très travaillé, c'était vraiment un texte scientifique. Donc le professeur il disait que si nous étions capables de faire des notices comme ça, nous étions capables de faire un mémoire de 80 pages. J'aimerais beaucoup le croire, mais bon, pourquoi pas. Donc la suite, c'est que toujours dans ce cadre, Le musée cherchait 3 étudiants pour faire un stage dans le but de monter une exposition à partir des œuvres sélectionnées de cette période, les plus belles œuvres du musée. Et c'est là que 2 étudiantes, plus moi, avons sauté sur l'occasion. Et nous avons très bien fait, je pense. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Nous avons donc dû travailler avec le conservateur et ses 2 collègues. Et donc, nous avons reçu une liste de nombreux tableaux qui allaient de la période de 1400 à 1900. Donc, c'est une période assez vaste. C'était des tableaux d'auteurs différents, de femmes différentes. Il y a des noms très connus comme Renoir ou Pissarro, etc. Puis d'autres beaucoup plus néo-châtelois comme Léopold Robert, Maximilien de Meuron et son fils Albert. Et les frères Girardet comme Karl, etc. Des noms que je connais pas forcément, enfin, je ne connaissais pas forcément à l'époque. Et c'est des tableaux de sujets très différents aussi, donc ça peut être des natures mortes, des portraits, des études, des études inachevées, des paysages, des ruines, des camaïeus. Un camaïeu, c'est un paysage ou une scène de personnages peintes dans une seule couleur. Donc dans ce cas-là, c'est un camaïeu bleu. Et qui allait du blanc au bleu foncé, comme un peu ses dessins de porcelaine. Et aussi au niveau des formats, donc nous avions des tableaux qui faisaient près de 2 mètres sur 2, et d'autres beaucoup plus petits qui mesuraient peut-être 30 cm sur 30, j'ai dit en général. Le conservateur nous avait chargé à nous 3 étudiantes de choisir un thème qui rassemblerait tous ces tableaux et qui formerait l'exposition en question. Donc nous avions une carte blanche, mais nous avions le matériel qui était imposé. Nous ne pouvions pas enlever un tableau ou en rajouter. Nous devions faire avec ça. Alors avec mes collègues, j'ai beaucoup réfléchi. Et nous avons pu avoir des reproductions photographiques des tableaux en question. Et finalement, nous nous sommes dit que nous allions aborder la thématique du temps pour mettre en valeur à la fois tous les tableaux, que ce soit des paysages, des scènes familières, des portraits, etc. Et à partir de là, évidemment, le temps, bah, c'est un thème qui est absolument subjectif, donc on peut le voir sous différentes formes, pardon. Et donc là, nous avions proposé 3 visions principales, le temps éphémère, le temps mythique, un peu la tradition, quelque chose de très stable, et puis un temps qui est un peu entre les deux. Puis après, nous avions un peu varié les enfin des un peu les, nous avons nuancé un peu ces 3 thèmes. Et donc l'exposition enfin le montage de l'exposition a duré 3 mois, mais c'était 3 mois bien intenses, bien remplis. J'avais l'impression que ça a pris 6 mois, tellement nous avons fait des choses. Et donc nous avions presque fait tout presque de A à Z. Et nous avions donc la liste des tableaux, nous avions vu les reproductions, nous avions pu voir certaines toiles, pas toutes parce que certaines toiles très grandes étaient stockées, avaient même leur cadre enlevé, donc fallait. Nous devions nous contenter pour l'instant des photographies. Et puis aussi, donc ça, nous avions un certain nombre d'œuvres moyen et petit format qui remplissait une grande salle. Et puis, nous avions une autre salle qui contenait des grands formats. Et nous ne nous sommes pas occupés de cette salle des grands formats, c'était le conservatoire, car faute de temps, nous ne pouvions pas nous consacrer à cette salle-là. Donc, voilà. Et puis, nous avions fait un plan, disposé les 6 mètres, donc c'est parfois qu'on peut déplacer. Après beaucoup de discussions, parfois mouvementées, entre les 3 étudiantes, ou aussi avec et contre les professeurs et conservateurs et tout. Mais c'était vraiment très enrichissant. Et puis, nous avions dû écrire des textes, un guide d'exposition, expliquer le thème et les trois temps différents que nous proposions, enfin une lecture que nous proposions aux visiteurs. Et nous avions trouvé intéressant de rajouter en plus des tableaux des dessins qui pourraient apporter une compréhension plus intéressante par rapport au tableau. On pouvait aussi étudier les tableaux pour eux seuls. Donc, nous avions par exemple pour un arbre, un grand chêne de Maximilien de Moron. Nous avions sorti, sélectionné, étudié les dessins de chênes ou d'arbres. Nous avions expliqué la démarche, dans tel tableau, l'artiste avait fait des ruines et on voyait en premier plan un cavalier. Et en réalité, l'artiste avait demandé à un collègue peintre de dessiner le cavalier. Il l'a simplement copié parce que cet artiste, donc c'était toujours Maximilien de Meuron, détestait faire des figures. Il préférait faire des paysages. Donc c'est des anecdotes très intéressantes qui touchent le visiteur. Et nous avions beaucoup insisté sur ce côté anecdotique. Donc voilà, pour la présentation des dessins, nous avions mis en place des supports, des sortes de tables vitrées. À l'intérieur se trouvaient des dessins et par-dessus une sorte de nappe fixée à cette table et dont le tissu était entièrement opaque. Donc la lumière ne pouvait pas passer à travers, ce qui protège les dessins. Parce que les dessins, c'est un support qui est extrêmement fragile, qui supporte très mal la lumière et la chaleur. En tout cas, beaucoup moins que les tableaux. Donc là, sur ces nappes amovibles, on pourrait dire, c'était noté remettre en place après vision. Donc nous invitions les visiteurs à soulever ce tissu pour regarder les dessins. Alors voilà, et puis après pour l'exposition, nous avions dû faire aussi des étiquettes, choisir l'emplacement. Quand nous étions près de la fin de l'installation, les tableaux étaient déjà sur place, il ne restait plus qu'à les accrocher. Mais comme à tout moment, c'est vrai que même si on a des représentations sur plan photographie, on se dit tel ou tel tableau, ça va bien ensemble, etc. Sur place, on se rend compte que ça ne va pas à cause du cadre, à cause des couleurs, à cause des formats. Par exemple, il y a eu un grand changement. C'était un très grand tableau, ensuite un moyen, un encore plus petit, encore très petit, l'un à côté de l'autre. Et cet escalier, c'était affreux à voir. Nous avons vraiment dû changer. Alors, ce que nous avons fait, nous avons enlevé un tableau exceptionnellement. Nous avons mis le plus grand au centre et de part et d'autre les moyens. Donc c'était un grand changement, mais finalement ça a un peu épuré notre thème et puis ça allait très bien. Mais c'est vrai que sur le moment c'était un peu déroutant, j'ai à dire. Et aussi nous avions dû faire une comment on appelle ça J'ai un trou de mémoire. Il s'agit d'un événement journalistique. Justement, nous invitions des journalistes à venir c'est quelque chose de presse, non, les termes. Et puis, l'une des trois